peut-être qu'il y en a qui sont venus suite au Festival de l'espoir, qui joignent à nous. Je me disais, peut-être que ce serait bon de parler, c'est quoi notre espoir? C'est quoi qui fait le festival? D'après vous, ce serait quoi? Des suggestions? Notre salut? Jésus-Christ? Oh, t'as lu le dépliant, toi. Ouais, OK, c'est beau. C'est ça, vous riez, c'est parfait. Bon, mais c'est ça, j'aimerais parler de la grâce de Dieu. C'est sûr que la grâce, hein, c'est un terme, ils disent, dans le dictionnaire, je regardais, il y avait comme 20 définitions de différents usages de la grâce. C'est un terme, ils disent, c'est un terme un peu élastique. On peut donner le coup de grâce, ça c'est quelque chose d'autre. Une ballerine peut danser avec grâce, c'est quelque chose d'autre. On peut rendre grâce. On peut, grâce aux techniciens, on a le... Mais c'est autre chose encore. Mais là, c'est la grâce de Dieu. Et puis, c'est ça, c'est le fait qu'on est sauvé, on est accepté, c'est pas par nos mérites. On ne pouvait pas repayer, il n'y a rien qu'on peut faire, c'est juste par sa grâce. C'est quelque chose que je trouve facile à oublier. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est comme facile à oublier. Mais du non-chrétien jusqu'au vieux chrétien, on a besoin de ressonder c'est quoi cette grâce-là. Dans le fond, on enlève la grâce de l'abîme, puis on enlève la bonne nouvelle. Parce que ce qui fait que la nouvelle est bonne, hein, l'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Ce qui fait que la nouvelle est bonne, c'est la grâce de Dieu. Et puis, on l'oublie facilement. Ou on la néglige, ou on la minimise, ou on ne l'apprécie pas. On va passer l'éternité à exalter la grâce de Dieu. Et puis, il y a un texte que j'aimerais qu'on puisse lire ensemble pour méditer, pour apprécier la grâce de Dieu, c'est l'histoire du fils prodigue. Je sais que, tu sais, il y en a qui vont dire, « Oh, ouais, je la connais presque par cœur. » Tu sais, c'est du déjà vu. Mais essayons de la lire tranquillement puis savourer, « Hey, c'est quoi cette grâce-là pour nous? » On va prier avant. Seigneur, on va parler d'un sujet qui nous dépasse facilement. Et on veut demander ta grâce, ton Saint-Esprit, pour que tu nous donnes la capacité d'en parler, juste de la nommer, de l'expliquer. Et de la comprendre un peu plus. On a besoin de ton aide. On se tourne vers toi, fais-nous du bien. Et élève ta grâce dans nos cœurs, dans nos esprits, dans notre compréhension. Dans le nom de Jésus, qu'on te le demande. Amen. OK. C'est dans Matthieu 15. Mais peut-être avant, juste de dire, on ne peut pas apprécier la grâce de Dieu si avant, on n'en ressent pas le besoin, si on ne se voit pas comme pécheur, incapable d'entrer en relation avec Dieu, dans le fond, même avec nos propres efforts, notre amour, nos bonnes œuvres. Ah oui, c'est Luc. J'ai dit Matthieu? Luc, excuse-moi. Merci. C'est mon petit gars. Il se sent à l'aise de me reprendre. Il sait que la grâce est sur lui. Donc, tu sais, si je n'en ressens pas le besoin, si on dit qu'on va te faire grâce, c'est un peu une insulte. C'est comme si moi, mon boss, il me donnait mon chèque de paye, puis il me disait, « Compte-toi bien chanceux, c'est une faveur que je te fais. » Là, je disais, il me semble que j'ai travaillé toutes mes heures, que j'ai fait une bonne job, il me semble que je le mérite. Tu sais pas, une faveur que je te fais, là, c'est mon salaire. Tu sais, on a un contrat ensemble, là, puis là, une faveur. C'est insultant. Mais si j'ai fait une grosse gaffe ce mois-là, j'ai fait perdre à la compagnie le contrat du siècle, puis que là, il vient me voir, puis il dit, « Compte-toi bien chanceux. C'est une faveur que je te fais. » Merci, monsieur. Là, parce que là je sais que j'en ai besoin. Donc, la grâce, on peut pas... C'est une insulte, la grâce, si on n'en voit pas qu'on en a besoin. Mais c'est quand qu'on voit qu'on en a besoin. Puis là, on n'a pas le temps de parler comment est-ce qu'on en a besoin. Ce serait le fun de voir à quel point qu'on est pécheur, à quel point qu'on est perdu, à quel point nos meilleures bonnes œuvres, nos meilleures intentions, nos meilleurs efforts, puis tous nos petits moyens, que c'est insuffisant pour mériter d'être accepté de Dieu, puis il faut que ce soit sa faveur gratos. Hein, gratos. C'est en espagnol, ça? Par lequel on peut s'être accepté. Donc, Luc, si on regarde, j'ai-tu mis ici? Oui, c'est ça, un beau verset qui nous aide peut-être à situer la grâce de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un cadeau, un don de Dieu. C'est une bonne question un matin, as-tu reçu le cadeau de Dieu? Si tu n'as pas reçu le cadeau de Dieu, il te manque de quoi? Il te manque la bonne nouvelle. Puis, c'est ta place ici un matin, si c'est venu après le Festival de l'Espoir, puis tu vois, ouais, c'est quoi cette affaire-là, l'Église baptiste, ou d'autres assemblées, d'autres églises. Mais si tu n'as pas reçu le cadeau, le don de Dieu, il te manque de quoi? Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ça nous aide à situer la grâce de Dieu. Donc, est-ce que tout le monde a une Bible? Là? Ça serait bon de suivre dans la Bible, même si j'ai mis ça sur les petites diapos. Bon, et là, c'est la première fois. Oh non, t'as parlé. J'ai pesé deux fois. Merci. OK. Ça commence, hein? De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Donc, la grâce est pour les pécheurs. Lisons l'histoire. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, la nourriture des cochons, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Bon, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » On arrête ici. Là, on voit le fils, il reconnaît, « Oh, j'admets, je t'ai joué un coup de cochon. C'est beau, mais là, je reviens. » Et puis, là, je ne peux plus être ton fils, c'est correct. Est-ce que je peux être ton employé? Une relation ouvrier-employé. Et puis, dans le fond, lui, il voyait la relation avec son père un peu à sa mesure. Son niveau de maturité, ou la grandeur de son cœur, la grandeur de son amour peut-être pour son père. Il ne dit pas qu'il s'ennuyait de son père. Il dit, « Ah, vraiment, là, je m'ennuie de toi. » Non. Il pensait avec son estomac. Les mercenaires de mon père, ils ont du pain. Il ne pensait pas avec son cœur. Il pensait avec sa tête aussi, calculateur. Écoute, on fait un deal, papa. Là, je suis ton ouvrier, puis tu me payes, j'ai faim. OK? Il ne dit pas qu'il regrette ce qu'il a fait. Il ne présente pas d'excuses. Puis il ne dit pas qu'il aime son père. Puis il ne dit pas qu'il s'ennuyait. Lui, il est à un niveau. Là, on va voir l'autre niveau. C'est ça, quand je dis, des fois, on allait discuter à saisir l'immense grandeur de la grâce de Dieu. Regardons son cœur. Parce que des fois, on a notre petite tête, notre petit esprit calculateur, puis on est limité à ça. Mais là, on va voir l'autre côté, un autre point de vue, une autre perspective, une autre façon de penser. Verset 20. « Et il se leva et alla vers son père. » Oui, merci. Et il était, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Tu sais, c'est un monsieur digne, puis tout ça. Non, 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 il part à courir. Il oublie sa dignité, il voit son fils au loin, il l'attendait. Le fils lui dit, il commence son petit speech. « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne de t'appeler ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Coupe la parole. Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers à ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et le retrouvé. » Ils commencèrent à se réjouir. Et là, on voit donc le point de vue du père. Que lui, c'est pas né avec sa tête, il cherchait pas, lui, un serviteur à bon marché. Pas calculateur, pas en tout. C'était avec un cœur de parent, de papa. Puis de maman. Tu sais, des fois, là, quand on voit, là, cette semaine, j'étais avec une maman qui m'expliquait là, qu'elle avait une mezzanine chez elle, et puis il y avait une rampe, puis elle a un petit gars. Bien, c'était James au camp. Puis là, elle disait, quand quelqu'un m'a dit là, que mon petit gars pouvait monter la rampe comme ça, la rampe comme ça parce qu'il y avait des barreaux, puis foutre le camp par-dessus bord, mon cœur a chaviré. J'ai pas dormi de la nuit, littéralement pas dormi de la nuit. Là, tu sais, son cœur était en état d'alerte. Parce que là, ça touchait son cœur. Puis c'est là un peu le père, OK? C'est pas avec son estomac qu'il réfléchissait, c'était pas avec sa tête, c'était avec son cœur. Et puis là, c'est comme un moment, tu sais, un moment ours, là, tu sais, où une mère ou un père, tu sais, qui réfléchit pas une fraction de seconde pour donner sa vie à son enfant, pour le défendre d'un danger. C'est comme ça que le père réfléchissait. C'est ça, comme ça que sa grâce à lui, dans son point de vue, que ça se produisait dans sa tête. Fait que le fils, lui, comme je disais, il a son point de vue, il n'avait pas la maturité, puis il n'avait même pas le bon sens de comprendre qu'il avait le culot de se présenter devant son père pour demander d'être son serviteur. Écoute, bonhomme, tu l'as insulté, tu as insulté sa personne, tu as rejeté son amour, tu as été gaspillé tous ses biens avec des prostituées, puis là, tu as le guts de revenir devant lui. Tu sais pas que tu mérites rien, tu mérites que d'être banni de sa présence, puis rejeté, le gros rejet pour toi, mon homme. Il n'y a même pas cette clarté-là. Lui, il vient, profiteur un peu, puis « Hey, papa, tu sais, on oublie ça, puis va être ton employé. » Et ça, c'était sa façon de penser. Et là, on a l'autre point de vue du père. Puis des fois, comme chrétien, ou comme non-chrétien, on veut s'approcher de Dieu un peu comme un calculateur avec notre tête. Tu sais, si je fais, bon, ça, je vais faire ça, Seigneur, puis je vais arrêter de faire ça aussi, puis là, ben réponds à mes prières, tu sais, là, ça va aller bien, hein, tu vas m'écouter. Puis là, on est calculateur, on pense pouvoir acheter sa faveur par nos actions. Même comme chrétien, ça nous revient, ça nous colle après. Sans réaliser vraiment ce qu'on mérite seulement, si c'était que de nous-mêmes. Fait que je pense ici que Jésus, avec la parabole, il essaie de nous enseigner, garde bien ça, là, essaie de penser comme un père pense. Hein, c'est pas facile, je sais, pour toi, là, mais essaie de t'élever là, un petit peu comment Dieu, comme parent, pourrait penser. Et puis, il y a un verset que je trouve qui exprime ça. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. » Quand Dieu veut parler de sa bonté, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Hein? » Nous autres, on mesure la bonté en centimètres peut-être, ou en mètres, ou en kilomètres. Mais Dieu, quand il parle de sa bonté, il parle en termes astronomiques, des milliards d'années-lumière. De grandeur. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père, pas comme un mercenaire ou un employeur, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Nous autres, des fois, on ne sait pas. Mais lui, il sait de quoi nous sommes formés. Comment pécheurs on peut être, comment faibles et fragiles. Il se souvient que nous sommes poussière. Donc, c'est ça, mais quand vient le temps, moi, après 1 million, là, tu sais, je perds le compte. 1 million d'argent ou 1 million, tu sais, c'est difficile de s'imaginer. Mais là, des milliards d'années-lumière, c'est même plus des kilomètres. C'est difficile à saisir. Ça nous demande un effort d'abstraction. C'est ça que Jésus je pense, dans la parabole du fils prodigue, il essaie de nous enseigner. Et puis, c'est bon parce que, je ne sais pas pour vous, mais des fois, surtout quand je suis devenu chrétien, j'avais des doutes qui m'ont assaillé. OK? Est-ce que la grâce de Dieu est vraiment suffisante? Tu sais, parce que peut-être qu'il faudrait que je m'améliore un peu plus puis que je fasse mes bonnes œuvres. Puis si c'est juste la grâce de Dieu, ah, tabarouette, là, j'y dois une montagne de reconnaissance. Je ne serai jamais assez reconnaissant pour lui. Ah, il ne sera pas fier de moi. Il y en a-tu qui ont déjà pensé comme ça? OK. Soyez pas gênés. Il y a juste Réjean qui... et puis, c'est ça, on commence à penser en termes de bonnes œuvres. Puis peut-être aussi le doute. Ouais, peut-être sa grâce qui est suffisante pour la première fois quand tu viens à lui. Mais la deuxième fois, là, c'est assez, là, tu sais. Tu sais, il y a des limites pareilles, là. Tu penses, tu reviens? Encore? Oui, oui, je t'avais pardonné tout ce que tu avais fait. Mais là, tu sais, tu m'as une deuxième fois? Pas sûr. Tu sais, des fois, le doute nous vient comme ça. Tu sais, si j'arrive au ciel et il a changé d'idée, y en a-tu qui ont déjà pensé cette question-là? Hein? Si j'arrive au ciel et il a changé d'idée, peut-être tu aurais pu te forcer un peu plus, il me semble, là, tu sais. Tu n'es pas très reconnaissant. Fait que là, j'y ai bien réfléchi, puis non, ça passe pas. Pourquoi est-ce qu'il serait obligé, pas obligé, mais pourquoi est-ce que sa grâce serait suffisante? Pourquoi? Sa grâce était suffisante, on va dire, pour le premier coup, mais pourquoi qu'elle serait suffisante jusqu'au bout? Et pour explorer encore ça, puis regarder encore là les deux points de vue, puis de se pratiquer à ça, on a mon point de vue, puis il y a son point de vue à Dieu, qui a le droit à son point de vue aussi. On va regarder une autre histoire. C'est dans 2 Samuel 9, c'est l'histoire de Méphibosheth. Est-ce que vous arrivez à lire? C'est petit, hein? Est-ce qu'il faudrait fermer un spot? L'histoire de Méphibosheth. S'il y en a qui connaissent l'histoire de Méphibosheth? Ouais, c'est une belle histoire. David avait obtenu la paix avec tout son entourage, tous les autres peuples. Le Seigneur lui avait donné la victoire. Et puis là, il pensait à son ami Jonathan. Il avait fait une promesse, puis ça faisait peut-être 20 ans de ça. Il avait fait une promesse d'être bon envers la descendance de Jonathan. Jonathan, son meilleur chum, était mort. Est-ce que vous êtes là? 2 Samuel 9, on va lire à partir du verset 1. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un? » Est-ce qu'il y avait des gros critères? « Quelqu'un de la maison de Saül. » Est-ce qu'il y avait des critères de sélection? Ça, c'est un « quelqu'un », c'est des belles paroles. C'est comme dans Jean 3, 16, « Quiconque, afin que quiconque croit en lui. » Que tout le monde, Dieu a tant aimé le monde. C'est n'importe qui, il n'y a pas de critère de sélection. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Remarquez bien cette expression-là. Il ne lui fait pas du bien pour lui-même, mais à cause de quelqu'un d'autre. Et c'est ça aussi la grâce qui nous est faite en Dieu. C'est à cause de quelqu'un d'autre, à cause de Jonathan. Puis il va revenir avec cette expression-là. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba? » Il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? » Là, c'était une bonté spéciale. C'est la bonté là, qu'on a lue tout à l'heure. « Autant le ciel, les cieux est élevé au-dessus de la terre, autant la bonté de Dieu est élevée au-dessus de nos pensées. » Là, c'était la bonté de Dieu qui voulait manifester envers quelqu'un, n'importe qui, pas grave, n'importe qui, trouve-moi-en un. Ou s'il y en a plusieurs, ça me ferait plaisir aussi. Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan. » Là, il dit, « Perclus des pieds. » Écoute, David, ça ne fitera pas bien chez toi, là. il est boiteux. Avec beaucoup de respect pour ceux qui boitent, là, mais qui sont handicapés. Ici, c'était comme une faute pour lui. Il est perclus des pieds. Le roi lui dit, « Où est-il? » Pas grave. Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. Un peu comme le fils prodigue. Il s'aperçoit qu'il n'est pas digne. Lui, il se prosterne sur sa face. David dit à Méphibosheth, et dit, « Méphibosheth? » Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point. » Pourquoi qu'il avait peur? Mais là, tu sais, ouais, c'est ça, c'était le descendant de la dynastie que David remplaçait. Habituellement, qu'est-ce qu'on faisait avec les descendants de la dynastie rivale? On les tuait toutes. Fait que là, lui, il se sentait convoqué. Il dit, « Ça y est, mon heure est arrivée. C'est ça que je mérite. Pas que j'ai fait du bien ou du mal à David, mais c'est parce que moi, c'est qui je suis. Tu sais, par naissance, j'ai un problème. Puis je suis fait. Là, c'est fini. » Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan. C'est pas à cause de toi. Et là, gardons en tête la question, pourquoi est-ce que la grâce de Dieu est suffisante pour moi? C'est à cause de quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce qu'il y a des bonnes raisons pourquoi Dieu, un coup rendu en haut, il ne voudra pas changer d'idée? C'est à cause de Jonathan, à cause de Jésus. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Et ça, il va le répéter 4 fois dans le petit passage. Tu mangeras toujours à ma table. Écoute, là, c'est quelque chose. Là, il ne donne pas un gros cadeau là-dedans, mais il donne le cadeau de son intimité. Toi, là, qui mériterais juste de mourir si c'était de toi par naissance, je te donne le cadeau de mon intimité. Tu vas manger à ma table. Toujours. Pas de condition. Verset 8. Est-ce qu'il faut sauter de diapositive? Oui. Il se prosterna et dit, « Qui est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort? » Et je trouve ça beau, cette réaction, parce que lui, il commençait à catcher l'immensité de la grâce, de la bonté. Et puis, je pense qu'au ciel, on va être sonné un petit peu. Les anges vont être sonnés. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Il y a des humains qui sont là. Ça va magnifier, élever la grâce de Dieu. Puis il va se servir de nous pour montrer comment il aime son Fils et comment il est capable d'aimer, de gracier quelqu'un. Puis on va être... Hey, Méphibosheth, assis à la table. Tu sais, c'était une belle table. Puis il avait ses enfants, puis il était traité comme son... Tu sais, tu vas voir... Amnon, tu sais, un prince qui vient, Absalom, un gars, une grosse, beau, fort, il n'y avait pas une impureté chez lui. Puis Tamar, la princesse Tamar, belle, comme un cœur. Salomon, un petit vite intelligent qui faisait des jokes à faire rire tout le monde. Le général Joab qui venait des fois. Puis s'il n'avait pas compris la grâce de David, Méphibosheth, ce serait sauvé juste de voir Joab. Hey, c'est son épée que je mérite. Les vaillants héros de David qui des fois étaient invités comme des invités de marque à sa table. Puis lui, il avait sa place, il arrivait copain avec ses béquilles de bois. Puis tout le monde souriait. Parce qu'il voyait ça, c'est la grâce de Dieu. Puis, hey, David, comment qu'il aimait Jonathan. Puis ça, il y avait une larme dans les yeux de tout le monde. Hey, c'est beau ça. Et donc, il avait compris. Il ne fallait pas qu'il aborde. Donc, il avait la façon de voir de Méphibosheth, son point de vue, puis le point de vue de David à cause de Jonathan. Où est-ce que je suis rendu? On va reprendre au verset 8. Il se prosterna. « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien, mais pas juste un chien mort? » Ça vaut rien, ça, hein? « Tel que moi. » Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître, » parce que c'était Saül, « au fils de ton maître, tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. » Du jour au lendemain, il fait millionnaire, multimillionnaire. « Tu, Tsiba, tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Il y avait juste une job à faire. Sois là, à ma table. Parce que j'ai besoin de toi dans un sens aussi poqué, aussi indigne que t'es, pour montrer aux gens comment moi j'aimais Jonathan. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Verset 11. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à ton serviteur. » Et Méphibosheth, troisième fois qu'il dit, « mangea à la table de David. » Il ne dit pas toujours ce coup-là. Il qualifie de manger à la table de David comme l'un des fils du roi. Ce n'était pas un ticoun serviteur. C'était pas même un invité de marque, comme des fois un des vaillants héros de David ou Joab. C'était comme un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mica, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Verset 13. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car, quatrième fois, il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. Il n'était peut-être pas gracieux, tu sais, dans ses mouvements, mais il avait sa place à cause de Jonathan. Et on voit un peu l'amour de David pour Jonathan. On a deux passages qui nous parlent de ça. Je les ai mis là, pas besoin de tourner. David, dans son temps de détresse, il était poursuivi par Saül et Jonathan l'avait aidé. Mais même quand il venait de tuer Goliath, si on lit ici à l'écran, David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il s'était passé quelque chose, puis dans Jonathan était... Il avait fait des délivrances pour le peuple de l'Éternel, puis je pense qu'il était près de Dieu. Et David était près de Dieu, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Puis entre les deux, il y avait une affection particulière, profonde, je dirais même prophétique de ce qui allait nous s'appliquer à nous. Il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait. Et lui, c'est le fils du roi, l'héritier, le prochain roi. Il enlève son manteau pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements. Je ne sais pas jusqu'où il était, mais il donne ses vêtements. Hey, c'était intime, ça. Même son épée, son arc et sa ceinture. Il savait que lui allait devenir le prochain roi. Il était prêt à lui donner sa place, lui, de successeur. Il la donnait volontiers à David aussi. 2 Samuel 1,26, ça dit, quand Jonathan est mort, puis David avait de la grande tristesse pour son ami. « Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. » C'est un amour difficile à nommer. Mais cet amour-là, de David envers Jonathan et de Jonathan envers David, David avait le besoin de l'exprimer. Puis il avait promis à Jonathan, « Ta descendance, je vais y faire attention. » Puis il voulait honorer la mémoire de son ami Jonathan. Et puis il avait trouvé ce gars-là, Méphibosheth, qu'il ne connaissait pas, pour l'utiliser, pour montrer à tout le monde comment est-ce qu'il voulait aimer Jonathan. Et dans le fond, quand on dit, « Mais pourquoi que la grâce de Dieu envers moi, elle va toffer jusqu'au bout? Pourquoi est-ce qu'il ne changera pas d'idée? » C'est à cause de ça. Il a transféré, dans le fond, les mérites de Jonathan sur Méphibosheth. C'est bon. Pourquoi c'est important pour moi de comprendre ça? C'est parce que ça m'aide à comprendre un peu plus la grandeur de la grâce de Dieu envers moi, de son amour envers moi. Tabarouette, il m'aime comme il aime son fils. Quand je crie, là, ça remue quelque chose dans son cœur à Dieu. C'est dur à saisir. Moi, j'ai habituellement la façon, le point de vue de Méphibosheth. « Oh, ben là, tu sais, je mérite de mourir. » Ou du fils prodigue. « Écoute, on va être ouvrier, employeur. » Ben là, il faut que je regarde de sa façon. Comment qu'il m'aime. Ouvre donc tes petits yeux. Fais un effort d'abstraction, qu'il me dit. Essaye de comprendre à quel point que ma grâce, elle va loin pour toi. Donc, c'est ça. Il y a comme un transfert. Les privilèges d'une personne sont transférés à un autre. Et puis, il y a un autre verset qui... Hey, non. Avant. Parce qu'on a des petits amis ici, hein? Les ateliers ne sont pas là. On peut le mettre. Merci. J'ai mis une petite bande dessinée. Est-ce que vous voyez? Ou est-ce qu'on devrait fermer quelques spotlights? Ouais? OK. Dans les camps, j'aime beaucoup ça raconter des histoires comme ça. Et puis, il faut penser aux petits aussi, hein? Mais c'est de voir ici, dans cette histoire-là, une simple histoire, de voir un peu ce même transfert-là, le transfert de l'affection, pour un peu voir les choses d'une autre façon, et puis s'approprier un peu mieux la grâce de Dieu envers nous, qui est astronomique, qui est difficile à saisir. Ici, on va aller regarder l'histoire. Que c'est beau, la vie. Et là, on voit le docteur qui dit au papa, « Je suis désolé. » Mais son cas s'aggrave. Son cœur est alimenté artificiellement. Tout le monde voit? Oui, OK. Pour sauver Hervé, il faudrait une transplantation cardiaque, mais les donneurs sont rares. Là, le papa a dit, « Que faut-il espérer? Hervé n'a que 19 ans. » Hop, je note, j'ai passé deux. Elle est rapide, la gâchette. Et là, le papa, il sort dehors et dit, « Oh mon Dieu, je ne sais plus quoi vraiment te demander, je suis découragé. » Essayez de rentrer dans ce titre, un père qui il va perdre son gars. Quelques jours plus tard, un soir, le téléphone sonne. « Dring! Allô, Madame le Prince? Nous allons pouvoir opérer votre fils. Ah, magnifique! Vous avez trouvé un donneur. » Moins de 2 heures plus tard, tout est enfin prêt. Si nous n'avons plus reçu un cœur, notre malade mourrait. Et puis là, il dit, le donneur est un garçon de 14 ans tué par un chauffard. C'est affreux. Et puis là, il sort et quelques heures plus tard, tout s'est passé merveilleusement. Hervé est costaud, il devrait s'en sortir. Oh, merci docteur, c'est vraiment un miracle. Oui, une réponse de Dieu à nos prières. 6 mois plus tard, Hervé a retrouvé une pleine forme. Je suis heureux de ce que Dieu a fait pour moi, mais quelqu'un est mort en me laissant son cœur. C'est plus fort que lui. Hervé veut savoir. Il met en place un plan pour connaître l'identité du donneur. Puis là, on le voit ici, il rentre dans sa petite gimmick, OK? Petit mensonge. Ici l'inspecteur Roche de la police. De la police de l'air et des frontières. Ça a l'air sérieux. Je voudrais vérifier un détail. Oui, l'avion de Saint-Inter est arrivé de Chabreuil-Valence, monsieur l'inspecteur. Et là, il téléphone un autre. En effet, monsieur l'inspecteur, l'avion transportait un cœur à greffer. L'hélicoptère était celui de l'hôpital de Montélimar. OK, on avance. Je suis sur la bonne piste. Il me faut retrouver un garçon. Excusez, j'ai. Un garçon de 14 ans, merci. C'est les chiffres français, c'est ça qui mélangeait. De 14 ans. Mort certainement. C'était pas une joke. De 14 ans, mort certainement à l'hôpital de Montélimar. L'hôpital n'a rien voulu me dire, c'était confidentiel. Mais les journaux seront plus bavards. Et voici, j'y suis fauché par un chauffard. Le jeune Cédric Blache a succombé à ses blessures hier matin. Il était âgé de 14 ans. Ô Seigneur, c'est horrible, pauvre parent. Mais ouais. Ah, j'ai pas le courage de rencontrer ces gens. Ils savaient là où est-ce qu'ils restaient. Hervé est allé au cimetière à la recherche de la tombe de Cédric Blache. Ah, Seigneur, comment ne pas aimer la vie lorsqu'on la doit à quelqu'un? Vous voyez au loin, là-bas, là? Je vous observe depuis tout à l'heure. Vous connaissez Cédric? Oui, un peu. Parce que là, il était un peu mal foutu, parce que c'était comme confidentiel. Il ne devait pas savoir. Je suis son père. Oh, vous avez une photo de lui. Puis il voit le petit gars. Aïe, aïe. Excusez-moi, mais je ne crois pas me souvenir de vous. Comment connaissez-vous Cédric? C'est-à-dire que je l'ai rencontré l'été dernier. Oui, c'est ça. Alors, c'est sûrement lors du camp de Cévennes. Oui, tout à fait, c'est ça, oui. C'était animateur, mais il n'était pas dans mon groupe. On avait remarqué qu'il était super, un bon petit gars. Ah, il nous manque beaucoup. Voulez-vous passer à la maison? Ma femme sera heureuse de faire votre connaissance. C'est que je ne voudrais pas vous déranger, là. Au contraire, ça fera du bien à mon épouse. Elle a tant de peine à s'en remettre. Vous saviez, nous n'avions que lui. Ah, là, le gars, il se dit, mince, je me suis mis dans des beaux draps, là. Il fallait qu'il joue le jeu un peu, là. Ah, si vous saviez comme il aimait la vie. Puis là, le papa a dit, il y a quelque chose d'injuste dans cet accident-là. Oui, la mort d'un innocent n'a jamais de sens. Il ne reste de lui que des souvenirs. Puis là, c'est comme trop fort. Il dit, en êtes-vous si sûr? Puis là, c'est le moment de vérité. Que voulez-vous dire? N'avez-vous pas fait un don de son cœur à la médecine? Hein, mais comment vous savez? Nous avons gardé le secret. Je vous ai menti, pardonnez-moi. Je ne connaissais pas Cédric, mais le cœur qui bat en moi, c'est le sien. Si vous saviez comme je suis heureux de vivre, sans lui, je serais mort aujourd'hui. Oh, voilà enfin la consolation. Cédric n'est pas vraiment mort pour rien. Et là, c'est cette parole-là que je trouvais belle. Hervé, tu es un peu notre fils maintenant. Et on trouve dans 1 Pierre un peu cette pensée-là aussi. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, par de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc, on a encore deux points de vue. On a le point de vue d'Hervé, que lui a reçu un cœur. Il est touché par ça, c'est la vie de quelqu'un. Puis on a l'autre point de vue des parents. C'est pas un cœur, c'est mon fils. C'est bien plus grand que ça. Pour nous autres, quelqu'un a été crucifié pour nous. Pour Dieu, c'est son fils. T'as une minute, là, parce que tu comprends pas, là. Tu comprends peut-être jamais vraiment, là. C'est mon fils. Le sang, il est précieux pour qui? Il est précieux pour nous, c'est vrai. Mais le sang, tu sais, quand on parle de Dieu, c'était mon fils unique, celui qui faisait tout mon plaisir depuis toute éternité. Ça, c'est quelque chose. Tu sais, regarde l'affaire, la grâce de Dieu de son point de vue. Puis là, après avoir tellement payé, c'est comme Méphibosheth. Tu sais, supposons qu'il est à la table du roi, il a roté. Ou il ne s'est pas rasé. Ou il échappe la sauce sur la robe de Tamar. Tabarouette, je suis faite. Ou le café, c'est cuisse à Joab. Dans le fond, il n'y avait rien qui pouvait le décoller de là. Il était là comme un fils à cause de Jonathan. C'est sûr, si c'était juste de ses mérites, il ne méritait rien. David voyait Jonathan. Mais là, il faut voir donc, selon les yeux de David, selon le point de vue du Père, du Fils prodigue, selon le point de vue de Dieu le Père. Le sang, il est précieux, mais tu ne sais pas comment il est précieux, ce sang-là. C'était mon fils. Hervé, tu es un peu notre fils maintenant. Tu sais, il y avait un lien, c'était un étranger, c'était un petit menteur de 19 ans qui venait les voir. Pourquoi qu'il aurait été proche de... Mais là, c'était son fils qu'il voyait, là. C'est ça qui donnait un sens. Puis comment qu'il était précieux. C'est ça, la grandeur de la grâce. Moi, c'est de penser, des fois, ça m'arrive des flashs un petit peu, de voir un peu plus clair. Que quand j'ai mal, ça, j'ai de la peine. Tu sais, mon Père céleste, je suis dans son cœur, il a de la peine aussi. Quand je prie, tu sais, tout donne, prend du sens. Le repos qu'on a d'un salut parfait et éternel, quand on accepte, qu'on comprend sa grâce, qu'on le voit selon son point de vue. La prière aussi a du sens. Et là, c'est moi qui te prie. Allô? C'est moi. Oui. Pas parce que c'est moi, mais parce que tu as donné Jésus pour moi. Fait que c'est moi. Tu sais, j'ai un libre accès au trône de la grâce. Puis toi aussi. C'est comment qu'il nous aime, là, c'est pas, tu sais, on chante, c'est bien, puis des fois, on réalise pas toute la portée. Je chanterai son amour pour toujours. Puis c'est vrai, on va chanter pour toujours son amour. On va tomber sur le derrière, au ciel. Les anges vont tomber sur le derrière aussi. Ça serait impossible. Puis, tu sais, il y a besoin de nous autres là-bas au ciel. Oui, oui, je veux que vous soyez toute là, la gang, toute la gang. Je ne veux pas qu'il en manque un. Vous allez voir comment je vous aime, comment moi je suis capable d'aimer. Puis vous allez voir comment j'aime mon fils. Parce que je vous aime comme mon fils, pas moins. Bien plus qu'un ange. Bien plus que j'ai aimé Adam. Il nous donne bien plus que les bénédictions d'Adam. Il nous voit en Jésus. Il y avait un verset, je ne sais pas si je peux le trouver. C'est d'autres versets, mais ils sont bons pareils. Hein. C'est par, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. La job est faite. Fait que pourquoi est-ce que sa grâce est suffisante? À cause de Jésus. Fait juste penser qu'on est en Jésus. Il nous a ressuscités ensemble avec lui, il nous a fait asseoir ensemble en Jésus-Christ dans les lieux célestes. On est associés avec Jésus-Christ comme un de ses fils, comme son fils. Dans Hébreux, ça dit, « Il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, Jésus-Christ, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ? » Pour moi, ça ne dit peut-être pas grand-chose, mais pour Dieu, c'est le top. C'est le bout du bout. Le précieux sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Comment ce sang-là va purifier votre conscience des œuvres mortes? C'est quoi les œuvres mortes? Oh Seigneur, là aujourd'hui, là, j'ai vraiment bien prié puis j'ai lu ma Bible. Tu sais, tu dois être fier de moi. Ça, c'est une œuvre morte. C'est sur nos mérites. Oh Seigneur, hey, as-tu entendu la belle prière que j'ai faite? Oh, wow! Ça, ça va être répondu. Hein? Ça va atteindre le cœur. C'est d'œuvres mortes. Même de penser, oh Seigneur, il est fâché contre moi, là, ça ne marchera pas. Puis il n'est pas fier de moi. Il me semble que j'aurais donc dû. Ça, c'est une œuvre morte. Ça veut dire que c'est ça, ces affaires-là. Penses-tu que ça a rapport? Toi, je te vois dans mon fils. Puis c'est vraiment... Moi, je trouve ça délicieux, des fois, juste d'apprécier. Avant, je faisais beaucoup d'affaires. Là, j'en fais moins. C'est comme j'arrête un petit peu, là. Puis j'essaie de voir de la façon que Dieu me voit. Ben merci. C'est vraiment beau. Puis des fois, ça me donne des larmes. On chante des chants, là. J'ai plus qu'à de chanter. Tu sais, les larmes viennent. Ça n'a pas d'allure. Alors là, c'est un peu long, là, je sais, là, mais... on va finir avec cela. J'ai juste quelqu'un. On va aller tranquillement. Vous allez voir, ça se tient, OK? Ça va avec le sujet. OK? Ça, c'est dans Colossiens. C'est mieux de lire dans votre Bible, Colossiens chapitre 1, verset 12, parce que c'est tout petit. OK? Là, Paul, il dit, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. » En fait, on n'était pas capable. On était des Mephibosheth, on était des fils prodigues, on n'était pas capable. Et puis, tu sais, je l'ai vécu, moi, comme chrétien, même, de vouloir transiger avec Dieu sur la base des œuvres. Puis j'ai rencontré ici, là, à l'église aussi, une personne, elle ne voulait pas accepter le Seigneur. « Oui, mais je ne serais pas assez bonne, il me semble que je ne serais pas capable. » Non, il t'a rendu capable. Il t'a rendu capable comme Mephibosheth. Tu n'es pas capable, Mephibosheth, de se présenter devant David et Joab. Mais il l'a rendu capable. Rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Là, il parle de celui qui nous a rendu capable. Pourquoi? Puis celui qui a été sanctifié. Pourquoi le sang est précieux? C'était qui cette personne-là? L'excellence de la personne de Jésus. Il est l'image du Dieu invisible, celui qui nous a rendus capables. Qui nous fait mériter cette grâce-là. On ne la mérite pas, mais à cause de lui, on l'a. Cette personne-là excellente qui t'a rendu capable, c'est le premier-né de toute la création. Celui en qui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les choses visibles, les choses invisibles, les trônes, les dignités, les anges, les archanges, les chérubins, les dominations, autorités, tout a été créé par lui et pour lui. C'est ce sang-là qui est précieux. Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, en Jésus. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de Jésus. Puis là, regardons ce sang-là avec le cœur du Père. Tu sais, le Père du Fils prodigue avait un grand cœur, un grand amour. Mais là, c'est le Dieu, le Père, comment est-ce qu'il voit son Fils? Hey, ce sang-là, il a une valeur, il est précieux. Par le sang de sa croix, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. Pensons à Mephibosheth, réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, afin de vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles, sans reproche. David ne voyait même plus que Mephibosheth boitait. Il ne voyait même plus ses problèmes. Il voyait Jonathan. Ah, verset 3. Si, ah, je savais qu'il y avait. Il y avait une condition. C'est là que je peux me planter. Hein? Ah, le si. Ah, là, il faut que je me force. Là, c'est là qu'il faut que je fasse tous mes efforts et toutes mes bonnes œuvres. Hein? C'est ça? Si. Hein? Je savais bien qu'il y avait des conditions et que j'étais fait. Puis que la grâce, peut-être, qui changerait son idée quand je vais me présenter devant lui au ciel. Non, il dit, si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi. Tout ce que besoin, c'est de la foi. Fais-moi confiance. Regarde, toi, comme je te vois à travers le sang précieux. C'est correct. Mais Mephibosheth, accepte la grâce. Fais-moi confiance à David qui pourrait dire, « Enfuis-toi pas dans un autre pays ou dans une grotte parce que tu as peur de Joab. C'est ici que tu mérites ça. Fais-moi confiance par la foi. Si Mephibosheth, tu demeures fondé et inébranlable dans la foi que je t'accepte comme ça à cause de Jonathan, tu pourras rester puis tu vas avoir ta place. Accepte ma grâce. » Puis moi, c'est difficile des fois, on a cet esprit-là de calculateur avec une tête rationnelle de comptable. Mais il faut avoir un cœur du Père. On va finir ici, on va prier. Seigneur, c'est pas facile pour nous autres de se mettre à ta place. Et toi, pour toi, le sang est vraiment précieux, le sang de Christ. Et c'est ça que tu nous as acquis. On veut quand même faire un effort, s'efforcer pour élever, magnifier ta grâce. exalter ta grâce. C'est la bonne nouvelle. C'est notre festival de l'espoir. Parce qu'il va y avoir des gens de toute tribu, toute langue, toute nation qui vont chanter en l'honneur de l'agneau, qui est tellement précieux. Seigneur, un jour, on va comprendre quelle place qu'on a dans ton cœur. Déjà maintenant, donne-nous du repos, de goûter la grâce, de l'élever, Seigneur, qu'on puisse chanter ton amour pour toujours. Amen.